Valérie Loresser. Je ne suis pas particulièrement pro-chasse. En revanche, j'aime la viande, je mange de la viande et je préfère nettement manger du gibier que de la viande industrielle traitée aux antibiotiques et vendue sur les étagères des supermarchés. Voilà, donc, c'est une autre façon d'aborder la chasse. Au revoir.
Bonjour, Fred de Loire-Atlantique. Ici Rouence. Message personnel. Ne laissez pas détruire les haies de Rouence. Rouence en Loire-Atlantique était une commune bocagère où un remembrement a créé de grandes parcelles agricoles à coup d'arrachage de haies centenaires. Bientôt, les 8 derniers kilomètres seront arrachés afin d'en replanter autant. Pourquoi ? Bernard Moreau, paysan rouençais, se bat pour l'arrêt de cet arrachage inutile. Aidez-le en signant la pétition en ligne « Ne laissez pas détruire les haies de Rouence ». Merci.
Salut la Terre au Carré, Nico de Marseille. Je viens de faire une session rattrapage podcast là, des émissions de la semaine. Bon, si on résume, les chasseurs veulent pratiquer un truc ancestral en arbre... Salut la Terre au Carré, c'est Nico de Marseille. Bon, si on résume, les chasseurs veulent adopter une pratique ancestrale, parcourir la nature avec leurs chiens et de temps en temps ramener de quoi faire un civet. Les promeneurs veulent se promener sans se prendre une balle perdue ou entendre claquer des coups de fusil. Et les animaux veulent avoir une petite chance de survie. Bon, ben, j'ai une solution qui va mettre tout le monde d'accord. On interdit toute forme de chasse, sauf la chasse à l'arc. Et voilà. Allez, bisous à tous.
Bonjour, c'est Léa du collectif Un jour un chasseur, créé suite à la mort de notre ami Morgan King, abattu par un chasseur dans son jardin en décembre dernier. Le collectif recueille et relaie des témoignages d'abus et de violences liées à la chasse et des sentiments d'insécurité croissants ressentis par les ruraux en période de chasse. Les témoignages reçus par le collectif ne laissent aucun doute à ce sujet. Le problème est grave, il est réel et il ne concerne évidemment pas les urbains, mais bien les gens qui vivent et cohabitent tous les jours avec la chasse et les chasseurs. C'est pourquoi nous avons lancé une pétition sur le site du Sénat, qui, si elle obtient les 100 000 signatures en moins de 6 mois, pourra faire l'objet d'une modification de texte législatif. On vous invite à la signer, à la partager et à nous soutenir en nous rejoignant sur nos réseaux sociaux, Un jour en chasseur, sur Instagram, Facebook et Twitter. Merci et bonne journée.
Bonjour, Étienne de Saint-Dizier-la-Tour en Creuse. Je pratique la décroissance au quotidien et notamment j'essaie de faire de la récup au niveau surtout de tout ce que je peux, notamment des téléphones portables. Je récupère les téléphones portables dits obsolètes ou pas assez performants de la famille, des amis. Et là, je viens d'en avoir un nouveau, vieux. Bon, moi, il répond à toutes mes attentes, mais le site de France Inter sur l'application je sais pas quoi, Store, bah, me dit qu'il est déjà trop vieux pour mettre l'appli France Inter. Donc, je peux même pas télécharger vos podcasts. Voilà, merci, au revoir.
Le répondeur de la Terre au Carré, 01 56 40 45 45.
Et au sommaire de notre club cet après-midi, les oiseaux marins dans la tourmente des cyclones, un journaliste vert de rage face aux engrais phosphatés et une plongée dans le monde de microcosmos avec des insectes étonnants. Et pour parler de tous ces sujets, je salue nos invités. Manon Clairbeau, vous êtes post-doctorante et vous êtes à Aix-en-Provence. Bonjour à vous.
Bonjour.
Le journaliste Martin Boudot avec nous en studio. Bonjour.
Bonjour.
Et en duplex de France Bleu Poitiers, on fait le tour de France, l'auteur naturaliste Denis Richard. Bonjour.
Bonjour.
On va se retrouver donc dans un instant tous ensemble. Vous allez bien sûr répondre aux messages des auditeurs qui nous rejoignent sur franceinter.fr, bien sûr les réseaux sociaux et l'appli France Inter, où vous pouvez nous laisser vos questions et vos notes vocales. Camille Cronier est là évidemment. Bonjour Camille.
Bonjour Mathieu, bonjour tout le monde.
Avec 14h30, une livraison de bonnes nouvelles quand même.
Oui, avec au menu un ver marin surfeur, un requin cochon et une vache qui pisse, mais pas n'importe comment.
Voilà pour le sommaire de cette émission réalisée par Valérie Ayestaraï, préparée aujourd'hui par Colin Gruel et Leonardo Kahn. Avec à la technique Djenabé Sangaré.
Mathieu Vidard. La Terre au Carré. Sur France Inter.
Allez, on va démarrer avec un premier tour de table. Manon Clairbeau, on commencera avec vous tout à l'heure. Vous avez publié une étude qui montre que les cyclones dans l'Atlantique Nord affament les oiseaux. Vous vous êtes intéressé aux échouages massifs d'oiseaux marins, c'est ça ?
Oui, c'est ça. En général, l'hiver, après des périodes de mauvais temps, des grosses tempêtes, on retrouve pas mal de ces oiseaux sur nos plages. Et c'était du coup le sujet de notre étude.
Voilà, on en parlera dans les détails tout à l'heure. Martin Boudot, dimanche soir, France 5 diffuse deux nouveaux documentaires de votre série d'investigation Vert de rage. Le premier, c'est Engrais maudit à 20h55. Le second, du charbon dans les poumons. Avec un dénominateur commun finalement pour ces documentaires, l'investigation scientifique, la mobilisation citoyenne et la recherche scientifique.
Absolument, Vert de rage, c'est assez simple. Ce sont des documentaires d'investigation en collaboration avec des scientifiques. On travaille avec eux pendant près d'une année et sur des problématiques environnementales et on met à disposition des citoyens les résultats de nos études.
Voilà, vous arrivez donc à provoquer même des études et des analyses. On le verra avec vous également tout à l'heure. Et puis enfin, Denis Richard, vous êtes l'auteur avec Pierre-Olivier Macquart de ce livre « Fabuleux insectes » qui paraît chez Delachaux et Niestlé. Ce sont des portraits de ces bêtes dont la diversité est assez fascinante. Quel est l'animal qui vous semble le plus étonnant dans tous ceux que vous avez choisis là, pour le livre? Quel est votre chouchou?
Oh, mon chouchou, c'est un papillon de Nouvelle-Guinée qui s'appelle l'ornithoptère, donc le papillon à ailes oiseaux de la reine Alexandra.
Mais pourquoi?
Eh bien, tout simplement parce qu'il est assez emblématique par sa taille et sa beauté des problèmes posés par l'environnement à l'heure actuelle aux insectes. C'est une espèce qui tend à disparaître, qui est sérieusement menacée et qui ne peut qu'attirer pourtant la sympathie et l'intérêt par sa taille et sa spécificité.
Bien, eh bien, en tout cas, il figure dans votre galerie de portraits d'insectes et on en parlera tout à l'heure avec vous, avec les messages bien sûr des auditeurs qui nous rejoignent dès maintenant. Holding on a faded stories, I mimic away the pain. Sorry's the wasted love. Love. I heard you say that things were falling out. Maybe all we need was talking. We wasted love. Oh, I wasted love. C'était Wasted Love.
La Terre au carré, le magazine Science et Environnement. Mathieu Vidard, sur France Inter.
Le début d'un beau voyage pour ces oiseaux marins épuisés par les récentes tempêtes.
Allez, ça va aller, ma belle. Ça va aller.
Et qui retrouve la liberté grâce à ces bénévoles amoureux de la faune sauvage.
J'appelle à tous les citoyens à se mobiliser quand il arrive des choses comme ça. Plus on est nombreux, plus c'est facile et plus on a de chances d'en sauver.
Voilà, et c'est extrait d'un documentaire de France Télé en 2014 avec l'association de faune sauvage Alcatorda. C'était la voix de Mélanie Godard qu'on entendait à l'instant. Manon Clairbeau, vous êtes avec nous, post-doctorante à l'université de Cork en Irlande. Là, vous êtes dans les studios de France Bleu Provence et vous avez publié avec le Centre d'écologie fonctionnelle et évolutive de l'université Paul Valéry de Montpellier, donc une étude dans Current Biology qui montre comment les cyclones dans l'Atlantique Nord affament les oiseaux. Vous avez mené ce travail dans le cadre de votre thèse. C'est ça ?
Oui, c'est bien ça. Donc la thèse que j'ai réalisée à Montpellier et avec l'aide d'un consortium international assez imposant, oui.
Et le thème global donc de votre thèse, c'était quoi au départ ?
Donc ma thèse, elle portait sur l'impact des changements climatiques sur l'hivernage des oiseaux marins.
Ouais. Et donc vous avez poursuivi avec ce volet-là.
On s'intéressait donc au changement climatique en tant que tel et notamment au changement de distribution des oiseaux pendant leur période d'hivernage. Et le dernier chapitre de ma thèse, donc ça, c'est ce papier qui vient de sortir où on s'intéressait cette fois-ci à des événements plus ponctuels que sont les cyclones.
Comment vous avez été amené vous finalement à vous intéresser à ce problème des oiseaux marins et des tempêtes qui est quand même très spécifique?
C'est des questions, je pense, que la communauté scientifique se posait depuis un certain temps. Qu'est-ce qui tue les oiseaux marins pendant des cyclones? D'où viennent les oiseaux qu'on retrouve sur nos plages? Mais ma thèse, elle arrivait au bon moment, je dirais, pour avoir les moyens techniques d'y répondre et surtout d'avoir un réseau de tracking de ces oiseaux marins assez imposant pour avoir des résultats robustes.
Et ça veut dire quoi tout ça? Alors, le tracking, les moyens, qu'est-ce que vous entendez par là exactement?
En fait, donc les oiseaux marins, quand on travaille dessus l'hiver, c'était la grande inconnue de savoir où est-ce qu'ils vont, puisqu'ils ne sont à terre que quelques mois par an pour se reproduire. Donc là, ils sont à terre et on y a accès.
Ouais.
Mais l'hiver, souvent, ils sont en mer. Et donc, pour savoir où est-ce qu'ils vont et puis pour connaître leur vulnérabilité, notamment en cyclone, on leur pose donc des petites balises, donc qui s'appellent des GLS, pour Global Location Sensor. Et en fait, donc ces balises, elles récoltent des niveaux de lumière. Et ces niveaux de lumière, nous, après, nous permettent de calculer donc la durée du jour et l'heure du zénith, ce qui sont en fait des proxys de la longitude et de la latitude. Du coup, après, en récupérant la balise sur l'oiseau l'année d'après, on arrive à savoir où est-ce qu'il peut la passer l'hiver.
Des proxys, pardon, vous avez dit, ça veut dire quoi?
On va vous demander de traduire plein de choses.
En gros, ça nous informe sur la longitude et la latitude de ces oiseaux.
Et alors, de quels oiseaux il s'agit et où étaient-ils localisés? Parce que les cyclones dans l'Atlantique Nord, ça touche différents lieux géographiques. Donc, vous vous êtes concentré sur quels endroits et quelles espèces?
Donc nous, on s'est concentré sur 5 espèces d'oiseaux, donc 4 de la famille des pingouins. Donc il y a le mergule nain, qui est le plus petit de cette famille, qui pèse 150 grammes, mais qui est le plus nombreux dans l'hémisphère nord. Ensuite, on avait le fameux macaremoine que tout le monde connaît grâce à son joli bec orangé. Et ensuite, on avait 2 espèces de guillemots. Et enfin, la petite dernière, qui n'est pas de la famille des pingouins, mais de la famille des mouettes, qui s'appelle donc la mouette tridactyle. Et donc ces 5 espèces, on a équipé, moi et mes collaborateurs, plus de 1500 individus qui viennent de 39 colonies sur l'ensemble de l'Atlantique Nord. Et donc on s'est intéressé à l'ensemble de cet océan. Et il y a des endroits effectivement qui sont prisés par les oiseaux lors de leur hivernage. Donc par exemple c'est le cas du large de Terre-Neuve ou encore du large de la mer du Labrador, le sud du Groenland, le large de l'Islande ou encore la mer de Barents. Et ces endroits sont également des lieux où les cyclones peuvent être assez importants.
Alors Manon Clairbeau, juste avant de parler de l'incident justement de ces tempêtes sur ces oiseaux, on imagine les petites balises donc sur ces animaux, c'est pas trop invasif pour eux? Il n'y a aucun problème dans le vol, j'imagine que c'est largement étudié par vous, mais il n'y a pas de problème du tout?
Donc en théorie, on ne pose pas une balise qui fait plus de 3% du poids total de l'animal que l'on équipe. Donc ça, c'est la théorie. En plus, nous, il faut savoir que nos balises, elles font 1 gramme environ. Et un mergule, le plus petit donc des espèces qu'on a étudiées, ça fait 150 grammes. Donc c'est le poids d'une grosse pomme de terre. Donc on est bien en dessous de ces 3%. Sachant qu'après, même au-delà de la théorie, on continue de vérifier, nous, que les balises que l'on met n'ont pas d'impact sur les individus que l'on équipe. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? Ben, on compare, par exemple, le succès reproducteur ou encore le comportement des individus que l'on a équipés avec des individus qui seront en fait des individus témoins, qui ne portent qu'une bague métal, par exemple.
Et donc, vous vous êtes rendu compte que ces cyclones affamaient donc tous ces oiseaux-là que vous avez étudiés. C'est-à-dire, concrètement, comment est-ce que ça affame ? Ça tue d'autres espèces qu'ils mangent ?
En fait, quand nous, on récupère des carcasses sur les plages, on se rendait compte que ces animaux étaient particulièrement amaigris. Il n'y avait pas de gras sous leur peau. Et donc, on se demandait de savoir si les conditions cycloniques étaient particulièrement dures et en fait augmentaient tellement leurs dépenses énergétiques que ces oiseaux ne pouvaient tout simplement pas survivre. Ou est-ce qu'ils mouraient juste de faim ? Et donc, mon travail, c'était de tester ces hypothèses-là.
Et donc ?
D'un oiseau marin pendant un cyclone. Et à notre grande surprise, on s'est rendu compte que les conditions cycloniques n'augmentent pas la dépense énergétique de ces oiseaux marins. Ce qui sous-entend qu'en fait, ce qui les tue, c'est de fait l'absence de nourriture ou du moins son inaccessibilité. Donc soit ça peut être que les oiseaux ne peuvent plus plonger parce que les conditions de vagues et de houle par exemple sont tellement difficiles qu'ils peuvent plus le faire, ou sinon c'est tout simplement que leurs proies ne sont plus du tout accessibles, soit parce qu'elles sont parties plus au fond ou elles sont carrément déménagées, ou elles sont par exemple tellement masquées par l'augmentation de la turbidité de l'eau que les oiseaux ne peuvent plus les trouver.
Mais ça, Manon Clairbeau, les tempêtes, évidemment, les oiseaux l'ont toujours connu dans l'Atlantique Nord et de tout temps, sauf qu'avec le réchauffement climatique, donc, il y a une intensification ou une augmentation d'ailleurs de ces tempêtes. Et pourquoi est-ce que ces oiseaux font moins bien face maintenant à ces phénomènes ?
Alors, je ne suis pas certaine qu'ils fassent moins bien ou mieux face à ces tempêtes. En fait, on a un biais aussi, nous, dans l'évaluation de cet impact-là. Mmh. C'est-à-dire que nous, l'impact sur les oiseaux marins, jusqu'à il y a peu, en fait, on le mesure avec les carcasses qu'on retrouve sur nos plages. Mais ça, c'est très dépendant de ce que la mer veut bien nous ramener. Donc, peut-être qu'il y a des années où nous, on n'a rien retrouvé sur nos littoraux, oui. Mais peut-être que sur les côtes, par exemple, du Groenland, on en aurait trouvé plein, sauf que c'est des endroits qui sont peu habités et peu surveillés. Donc, de fait, on a du mal à évaluer cet impact-là. Par contre, c'est vrai que depuis le milieu des années 70, le régime cyclonique en Nord-Atlantique a fortement augmenté. Et dans le futur, les modèles tendent à dire que l'intensité et la fréquence des cyclones de haute intensité va également augmenter.
Ouais. Et il y a des épisodes qui ont été particulièrement dramatiques, mais très récemment, je crois qu'en 2014, c'est ça, sur le littoral atlantique en France, on a retrouvé des milliers d'oiseaux. Et ça, c'était quand même une hécatombe assez rare.
Oui, en fait, en 2014, sur l'ensemble du littoral européen, donc si on va du Royaume-Uni au nord du Portugal, il y avait plus de 50 000 oiseaux marins qui ont été retrouvés morts sur le littoral. Et parmi ces 50 000-là, il y en avait 40 000 rien que sur le littoral français. Donc c'est aussi dû parce que on a des grandes surfaces de plage chez nous. Ouais. Mais c'était aussi surprenant dans le sens où il y avait énormément donc d'oiseaux de la famille, donc des pingouins, ce que je vous disais, particulièrement des macareux. Donc c'était effectivement une hécatombe pour eux.
Donc mort de faim, hein, on est d'accord, ils s'échouent, ils n'ont pas assez mangé et ils sont morts de faim et on les retrouve sur les plages.
Voilà, en fait ils meurent en mer, c'est ce qu'on pense, parce qu'ils n'ont tout simplement pas réussi à se nourrir et leur carcasse elle est ramenée par le courant sur nos plages et c'est là où potentiellement on peut les retrouver.
Alors donc ça c'est un effet direct du changement climatique, on peut déjà faire le lien aussi direct que ça, Manon Clairbeau ?
Non, pas encore, en tout cas sur les cyclones. Par contre, ce que nous on a conclu comme impact du changement climatique sur les oiseaux marins, c'est des prédictions sur leur changement de zone d'hivernage. Avec le changement climatique, nous on prédit que ces oiseaux vont hiverner de plus en plus au nord, ouais. Et potentiellement même arrêter de migrer. Si les conditions en Arctique se réchauffent, ben en fait, ils auraient même plus d'intérêt à aller hiverner plus au sud. Et ça, pour remettre ça dans le contexte des cyclones, ça ne veut pas nécessairement dire qu'ils s'en sortiront mieux ou moins bien. Ça veut juste dire que leur zone d'exposition aux cyclones va changer également.
Martin Boudot, vous souhaitez réagir ?
Oui, parce que ces balises, ça m'intéresse beaucoup. Elles ne pèsent qu'un gramme. C'est vrai que nous, on s'intéresse souvent au cheminement des déchets plastiques, par exemple, ou à des cargaisons, d'où elles passent, etc. Je voulais juste savoir, elles durent combien de temps, ces balises-là ? Et quelle est la fenêtre d'étude pour ce genre de balises ?
Alors, elles sont assez géniales parce qu'elles sont toutes petites, parce qu'elles n'ont pas besoin de beaucoup de batteries pour stocker une information qui est finalement très facile à stocker. C'est juste des niveaux de lumière enregistrés. Donc, par exemple, nous, on a des données sur 3 ans, sur certains individus. Le seul point négatif par rapport à un GPS, c'est que ça a une précision qui est bien moindre. On parle de 200 km quand même. Donc c'est pour ça que nous, on les utilise lorsqu'on a des études à grande échelle ou sur des événements météorologiques de grande taille, comme les cyclones par exemple, ou quand on s'intéresse à l'ensemble d'un bassin océanique. Donc après, à voir si ça correspond à vos objectifs, surtout que ça coûte moins cher, nettement moins cher qu'un GPS.
Et du coup, moi je reviens sur le dossier dont vous parliez juste avant, sur le déplacement en conséquence potentiellement de ces cyclones. Est-ce que les cyclones et les tempêtes qui s'intensifient donc à cause du réchauffement climatique sont une cause majeure de déplacement, voire de mort de ces oiseaux, ou il y a d'autres éléments qui viennent les pousser à s'adapter à des nouvelles situation.
Dans une de nos précédentes études, qui a exactement utilisé le même jeu de données, donc ces 1500 individus équipés de ces 39 colonies, on a montré en fait que les oiseaux marins choisissent leur lieu d'hivernage en faisant un compromis en fait entre leurs dépenses énergétiques de là où ils sont en fonction de l'abondance de leur proie. C'est-à-dire qu'un oiseau marin, il va choisir un endroit OK où il dépense pas trop d'énergie à thermoréguler. Mais il faut quand même qu'il y ait à manger. Il va préférer un endroit où il fait un peu froid, mais il y a quand même vachement à manger, plutôt que l'inverse. Et en fait, donc, en remodélisant ce qui va se passer dans le futur, on se rend compte que l'augmentation des températures va leur permettre de rester à des endroits plus au nord, puisqu'il fera plus chaud. Donc, en fait, leur thermorégulation leur coûtera bien moins d'énergie au nord. Mmh. Et on a également leurs proies, qui vont également se déplacer vers le nord. Le zooplancton, par exemple, est prédit de se déplacer à des latitudes plus importantes.
Merci beaucoup, en tout cas, Manon Clairbeau. Je signale que vous êtes la première autrice donc de cette publication qui vient de sortir il y a quelques jours dans la revue Current Biology. Et merci beaucoup d'avoir été avec nous pour nous en parler. À bientôt, j'espère.
Merci.
Au revoir.
France Inter. La Terre au carré.
14h26 et c'est l'heure de Camille Passauvert, Camille Cronier.
Avec des bonnes nouvelles le vendredi, s'il vous plaît Mathieu, on n'oublie pas. 9 nouvelles espèces de vers marins découvertes sur les côtes françaises. Les chercheurs du CNRS les décrivent dans la revue scientifique Zootaxa, parue lundi dernier. Et ils se sont un petit peu amusés pour les petits noms des bestioles. On a du côté du bassin d'Arcachon un vers à mèche blonde, puisqu'il s'appelle l'Anis Kelly Slattery, le célèbre surfeur. Kelly Slater, un artiste aussi, Terebella Banksy, et du côté de la rade de Brest, cette fois un chanteur, Pista Miosecki, comme le chanteur Christophe Miosek,
génial,
brestois. D'ailleurs, tiens, à propos de musique, attention les oreilles. Alors, vous aurez peut-être reconnu le groupe Metallica, et vous vous dites, mais qu'est-ce que ça vient faire dans la Terre au carré? Eh bien, Metallica va aussi participer la semaine prochaine, samedi 25 septembre, au grand concert pour la planète. Je dis aussi parce qu'il y a d'autres groupes et d'autres artistes qui étaient déjà annoncés. Stevie Wonder, Kylie Minogue, Billie Eilish, Coldplay, Andrea Bocelli ou encore... Ricky Martin, n'est-ce pas? Tous en direct d'un petit peu partout dans le monde pendant 24 heures. Le blind test continue.
Oh, fastoche. Elton John.
Elton John qui sera à Paris, par exemple. Alors, je signale qu'il a annulé tous ses concerts jusqu'à la fin de l'année, mais il participera bien à celui-là. Le but de ces concerts organisés par l'ONG Global Citizen, c'est d'appeler les gouvernements, les chefs d'entreprise et les philanthropes à travailler ensemble pour défendre la planète. Une autre espèce, tiens, regardez, sur mon téléphone, je vous l'affiche en gros. Je ne sais pas si vous avez vu passer cette photo toute cette semaine.
Je crois que c'était un fake, d'ailleurs.
Oxynotus centrina. Alors, donc, sa petite frimousse, la voilà, assez étonnante, puisqu'il s'agit donc d'un requin avec une tête de cochon, ça y ressemble vraiment. La photo a fait le tour d'Internet après la découverte d'un spécimen au large de l'île d'Elbe en Italie. Mais même s'il est rare, il n'a rien d'un mutant, c'est ce que m'a expliqué Joanne Mourier, chercheur CNRS spécialiste des requins à la plateforme Stella Mar, Université de Corse.
Non, c'est pas un mutant. C'est un requin qui est connu, qui a une large répartition. C'est un requin de profondeur. On le retrouve entre 60 mètres et 700 800 800 mètres de profondeur. C'est vrai qu'il y a un aspect assez particulier, hein, un peu trapu. Et en fait, c'est un animal qui va fouiller un peu dans le sédiment pour manger principalement des vers, enfin des types de vers type polychète. Ce qui peut expliquer le fait qu'il ait cette allure de tête de cochon. Ce qu'il faut aussi voir, c'est comme c'est des espèces de profondeur, quand on les remonte aussi en surface, elles ont tendance à être un peu déformées, ou en tout cas, elles ont subi des variations de pression, et des fois, elles ont des aspects un peu plus bizarres que ce qu'on pourrait avoir en milieu naturel. Et après, en fait, c'est un requin qui a été pas mal décimé, notamment sur la côte méditerranéenne française, par tout ce qui est pêcherie de chalutage, qui fait que ce type d'espèce a largement décliné.
Voilà. Étonnant, hein. Un mot aussi avec une autre photo, cette courgette géante vue dans Nice matin, 1,65 m de long quand même, hein, ah c'est oui. Presque aussi grand que moi. La plus grande de France d'après le journal, découverte au retour des vacances par une habitante du village de Saorge, garantie sans pesticides et elle a partagé, elle est sympa avec les voisins.
Ah bah oui, on fait manger tout le village. Vous nous emmenez dans le Morvan maintenant, Camille.
Oui, les belles forêts de ce parc régional à l'ouest de Dijon qui se transforment de plus en plus en champs de sapins, des épicéas et désormais des douglas, bref, plein de résineux très rentables dont la prolifération et les coupes exaspère certains habitants. Du coup, ils achètent des forêts pour les protéger de cette exploitation. Lucienne Aès, 80 ans, aujourd'hui fait partie des historiques du groupement forestier pour la sauvegarde des feuillus du Morvan.
Moi, c'est ma passion, quoi. Vous savez, quand je vois sur bord de route une belle forêt qui était coupée, ratiboisée, et le chantier que c'est, et en fait remplacé par une monoculture de Douglas, mais moi je dis c'est terrible quoi, pour moi c'est passionnel et ça me met dans une colère pas possible et je me dis, ben n'abandonne pas, continue, donc, autant que j'aurai d'énergie, autant je vais me battre pour la forêt encore.
Et je vous raconte plus en longueur ce combat de Lucienne et des autres lundi matin à 5h25, autopromo. Pour ceux qui veulent se bouger d'ailleurs pour la planète, sachez que demain samedi c'est le World Cleanup Day, la journée mondiale du nettoyage avec des ramassages de déchets prévus partout dans le monde et donc en France. Il y a une carte avec tous les points de rendez-vous sur le site worldcleanupday.fr. Enfin, une scène assez incroyable que je vais vous décrire pendant qu'on entend le son. Donc là, c'est une vache qui entre dans un petit enclos à l'intérieur d'une étable. C'est le bruit de la porte qu'elle vient de pousser. Petit arrêt ensuite, et là, on attend. Pipi de vache, voilà, c'est ce qu'on pourrait appeler ensuite derrière, écoutez. Elle finit. Voilà.
Elle va aux toilettes.
Elle va aux toilettes. Ça, c'est la chasse d'eau. Parce qu'en fait, donc, cet enclos sert de toilette aux vaches. Des scientifiques allemands et néo-zélandais ont réussi à dresser des vaches, 16 veaux exactement, pour qu'elles aillent uriner aux toilettes. C'est dans la revue Current Biology. Résultat comparable à un enfant de 3 ans. Petite blague au départ, hein, faut le dire quand même, mais qui s'avère être un moyen de mieux gérer les émissions de gaz à effet de serre parce que le pipi de vache est très riche en azote et ça se décompose. Et donc ça émet en se décomposant de l'oxyde nitreux, sans parler du nitrate dans les sols. Donc les chercheurs affirment que s'ils arrivent à récupérer 10 à 20% des urines des vaches, eh ben ça réduira considérablement les émissions de gaz à effet de serre. Le défi maintenant, ben c'est de l'appliquer à des troupeaux entiers et surtout en extérieur. Mais bon, déjà c'est incroyable quand même. Mais je voilà, vous assure, Martin, les images valent le coup d'œil.
Martin Boudot, c'est pour vous, ça vous fera un documentaire.
Oui, quand je vois comment ma fille galère pour aller aux toilettes à 2h30, je souhaite bonne chance à tous les agriculteurs de France.
Voilà, ce sera pour un prochain verre de vache, peut-être, on ne sait pas. Allez, dans un instant, on va parler des insectes avec notre autre invité, Denis Richard.
Thank you.
jamais son corps ne fut sien. Sous les pointes du corail, le pourpre des cicatrices. La mer américaine, la mer américaine. Le nom de mon pays brûle dans mon sang. C'est un son loin d'ici.
Noir Brésil, c'était Indie.
La Terre au carré. Sur France Inter.
Les insectes pourraient disparaître d'ici un siècle. C'est le constat alarmant de la revue scientifique mondiale Biological Conservation. Plus de 40% des espèces d'insectes sont en déclin. Un tiers d'entre eux sont menacés. Les insectes sont essentiels au bon fonctionnement de tous les écosystèmes. Avec un taux de mortalité 8 fois plus rapide que celui des mammifères, oiseaux et reptiles, la masse totale des insectes au monde a diminué de 2,5% par an au cours des 30 dernières années.
Voilà, France 2 en 2019. Denis Richard, vous êtes avec nous en duplex de France Bleu Poitou. Vous êtes pharmacien, auteur naturaliste et vous nous présentez ce livre avec l'entomologiste Pierre-Olivier Macquart qui s'appelle « Fabuleux insectes ». Ça sort chez Delachaux et Nestlé. On entendait le bilan catastrophique là sur les populations d'insectes et les prévisions assez alarmistes. Est-ce que vous participez à ce constat vraiment très noir, hein?
Oui, alors il faut savoir que le constat qui a été évoqué à l'époque, en 2019, a donné lieu à pas mal de controverses scientifiques. Mais au-delà, il y a un point évident, c'est que les populations d'insectes tendent à disparaître de façon importante ou à s'amenuiser du moins dans l'immense majorité des régions du globe, qu'il s'agisse de zones tempérées, qu'il s'agisse de zones tropicales, qu'il s'agisse de milieux forestiers, qu'il s'agisse de milieux ouverts, qu'il s'agisse de milieux aquatiques d'eau douce, le constat est véritablement alarmant. Et vous voyez des gens de ma génération qui ont plus de 50 ans, mettons, se souviennent toujours avec émotion des populations d'insectes qu'ils pouvaient croiser lorsqu'ils étaient jeunes, des bouquets de papillons, etc. Et c'est un spectacle que l'on ne voit plus guère à l'heure actuelle.
Alors c'est pour ça qu'il faut faire des livres pour nous les montrer et apprécier cette diversité. Parce que ce qui est incroyable évidemment avec les insectes, c'est leur diversité dans ce groupe animal qui est le plus représenté sur la planète.
Absolument, c'est une diversité absolument hallucinante. Et il faut savoir que tous les jours, de nouvelles espèces sont décrites. Y compris dans des endroits tout proches de nous, hein, en France, en Europe, etc.
Et comment vous avez choisi alors ceux du livre? Parce que j'imagine que dans la masse, il a fallu faire beaucoup de choix. Sur quoi vous vous êtes basé?
Ah oui, 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 ce choix était très douloureux, parce que vous l'imaginez aisément. Le nombre de pages était contraint. Il fallait croiser des insectes de différents ordres, c'est-à-dire des papillons, des scarabées, des abeilles, des diptères, etc. Croiser aussi des régions et des milieux différents sur la planète. Et puis au total, faire un livre susceptible d'intéresser les naturalistes amateurs, comme des gens qui voulaient tout simplement prendre plaisir à feuilleter des pages présentant un univers tout à fait fascinant.
Ouais, mais comment on devient, comment on passe de la pharmacie justement aux insectes, Denis Richard? Parce qu'au début, vous avez écrit sur les drogues et l'addiction, hein, je crois.
Oui, 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 absolument. J'ai écrit un certain nombre d'ouvrages concernant les dépendances humaines, les drogues, dont notamment le cannabis. Mais je me suis toujours intéressé aux sciences de la nature et en particulier aux insectes et aux plantes, et ce depuis ma plus tendre enfance.
Ouais.
En fait, je ne reprends là qu'une passion ancienne et m'y consacre plus. Et comme j'aime l'écriture, vous voyez, la boucle est bouclée.
Oui, mais alors justement, vous parlez d'insectes qui utilisent des poisons, hein, donc il y a vraiment un lien avec ce que vous faisiez auparavant. Dans quelles circonstances est-ce qu'on peut trouver et à quel endroit on trouve ces insectes?
Ah, les insectes qui produisent des substances toxiques sont très nombreux sur la planète, et ce, dans toutes les régions, car c'est pour eux un moyen de défense, bien évidemment. Qui recoupe effectivement les préoccupations des pharmacologues dans la mesure où un certain nombre de ces substances font l'objet d'essais en tant que potentiels médicaments, par exemple.
Mais choisir là, du coup, les insectes, même si c'est évidemment très intéressant, mais les insectes qui ont du poison en eux, est-ce que c'est pas risqué en disant qu'il y a certaines personnes qui vont encore moins aimer les insectes pour certains phobiques, on va dire ?
Ah, il y a toujours un risque. D'une façon générale, à l'exclusion probablement des papillons les plus décoratifs, les insectes ne sont guère aimés de la population.
Oui.
Pourtant, ils jouent un rôle absolument essentiel dans l'équilibre des écosystèmes.
Oui. Parlez-nous de ces insectes qui sont capables d'exploser. Alors ça, c'est assez drôle.
Ah oui, oui. Il s'agit en fait d'un petit coléoptère qui, lorsqu'il est inquiété, menacé, va réaliser une réaction chimique à l'intérieur de son abdomen. Et émettre ainsi une substance qui est presque à 100 degrés, qui plus est caustique, oui. Et qui évidemment est particulièrement dissuasive.
Oui. Et alors apparemment il arrive à diriger son jet caustique et brûlant, hein, précisément, dans toutes les directions.
Tout à fait, oui, son anatomie est ainsi conformée qu'il peut de façon très précise diriger le jet, notamment dans les yeux de l'agresseur.
Oui. Alors vous parlez beaucoup des papillons, vous l'avez dit, avec Camille d'ailleurs à Marseille, on avait fait une intervention dans une serre aux papillons et on a vu des grosses bestioles.
Très grand, hein, je crois que c'était 15 cm à peu près, ou 18 l'envergure, hein, papillon hibou.
Et alors dans ce oui, absolument, les caligots.
Dans ceux que vous décrivez, il y en a évidemment des très gros, et puis il y en a un qu'on connaît bien, on parlait de migrateur tout à l'heure, c'est le papillon monarque, qui lui aussi finalement... est victime du réchauffement climatique aujourd'hui et des activités humaines.
Voilà, et j'y pensais tout à l'heure à propos de l'évocation qui était faite de l'impact des cyclones sur les oiseaux marins. Le monarque, lui, est victime d'aléas climatiques, du réchauffement climatique, et ses populations sont aujourd'hui très largement menacées. Il faut y ajouter aussi la déforestation dans les zones d'hivernage, au Mexique notamment, les incendies de forêt sur la côte ouest des États-Unis, la dégradation générale de son milieu, la disparition des plantes hôtes de ses chenilles. Mmh. Bref, un cortège de phénomènes qui tendent à faire disparaître, mais de façon totalement dramatique, des populations qui se comptaient, il y a encore 30 ans, par dizaines de millions.
Martin Boudot, vous, il y a un insecte que vous aimez ou détestez particulièrement ?
Ça, c'était une très bonne question. Je trouve la fourmi absolument... passionnante, mais c'est vraiment une question sur les insectes qui n'est pas suffisamment traitée, comme le disait votre intervenant. On a tendance un peu à les oublier, tant que un scandale écologique ou une pollution ne touche pas les hommes, si ça ne touche finalement que les insectes, on s'en fiche un petit peu, alors que, comme il le disait, c'est essentiel dans l'écosystème.
Absolument.
Apparemment, les dernières études scientifiques quand même ont beaucoup marqué les esprits, hein, sur les chutes de population. Vous parlez des phasmes. Alors moi, j'adore cet insecte.
J'en avais j'étais en troisième.
C'est merveilleux,
le phasme. J'en avais récupéré mon cours de bio.
Et ben là, il y a le phasme géant.
Non, mais je
le refais géant,
pas.
Oui.
Et c'est le géant qui mesure combien alors ?
Ah, c'est un phasme qui peut dépasser sans problème 30 cm. Par contre, il est évidemment, comme tous les phasmes, il ressemble à un bâton, à une brindille. Ouais. Il est très cryptique, c'est-à-dire qu'on le voit très peu dans la végétation, d'autant qu'il reste évidemment toujours dans son milieu pour se protéger, c'est-à-dire qu'il constitue une brindille, une branche parmi d'autres branches dans les arbres.
Ouais, il est superbe, et celui dont vous parlez, le plus long du monde, fait 56 cm. Il a mis beaucoup de temps avant d'être découvert, malgré sa longueur.
Oui, il a été découvert, celui-ci, qu'assez récemment.
Paradoxalement.
Ouais. Et il n'est connu qu'à quelques exemplaires. Allez, on imagine qu'il est beaucoup plus commun dans certaines zones, bien sûr, encore faut-il le repérer.
On a une question de Patrice par mail, Denis Richard, qui nous dit qu'il est résident dans le sud meusien, qui s'est fait violemment piquer par un frelon asiatique et qui n'a vu aucune guêpe cette année, contrairement à l'an passé. Avez-vous une explication éventuelle à lui donner ?
Écoutez, s'agissant du sud de la Meuse, je ne sais pas trop. Dans les régions où je suis passé, notamment autour de Poitiers, les guêpes étaient abondantes cette année, sans que cela pose de problème particulier. En revanche, le frelon asiatique, indépendamment des piqûres très douloureuses qu'il inflige, et constitue un réel problème puisque c'est un insecte envahisseur, au même titre que de très nombreux autres insectes envahisseurs qui se substituent aux espèces habituelles de nos régions et tend à déséquilibrer fortement les écosystèmes. De plus, le frelon asiatique fait des abeilles l'une de ses proies favorites, ce qui évidemment contribue là aussi à la problématique de la disparition des abeilles.
Voilà, très belle galerie de portraits. On fera connaissance avec le homard des arbres. Moi, personnellement, j'ai beaucoup aimé. Ou alors le grillon de Nouvelle-Zélande qu'on appelle le dieu des choses laides.
Ah, oui,
et puis
oui,
la fameuse cigale qui peut atteindre largement les 17 ans. On en avait parlé avec vous, Camille, vous souvenez,
qui
à New York.
Précisément, oui,
aux États-Unis, et le réveil de ces cigales. Denis Richard, ce livre fabuleux, Insectes au pluriel, est publié chez Delachaux et Nestlé. Merci beaucoup à vous d'être venu dans La Terre au Carré. À bientôt.
À bientôt.
La Terre au Carré. Mathieu Vidard.
Juste là. Oui. Voici les rejets de l'usine OCP.
C'est bon. Oh, l'odeur, mais elle est insupportable. Ça, c'est la couleur de la mer ici. La couleur marron.
Les couleurs différentes.
Ouais.
Voilà, Martin Boudot, une scène tournée au Maroc par vous, à quelques mètres d'une usine d'engrais fertilisant. Vous êtes journaliste, réalisateur de cette série Vert de rage, qui sera diffusée dimanche soir sur France 5 à 20h50. Une nouvelle saison avec deux docs donc sur l'antenne, un troisième à voir sur le site de France Télévisions avant sa diffusion en octobre. C'est une série que vous déclinez aussi à l'étranger. Donc, on le disait, vraiment l'idée tout à l'heure, c'est une investigation journalistique de la mobilisation citoyenne et de la science surtout.
Oui, l'idée, c'est quand même d'apporter à des citoyens, des données scientifiques. On arrive sur des situations où beaucoup de personnes se posent des questions. Est-ce que l'usine pollue de telle façon? Est-ce que les maladies que j'ai repérées autour de moi sont vraiment en lien avec cette pollution? Et nous, notre travail, enfin, ce qu'on essaie de mettre en place, c'est de trouver des scientifiques, de faire des prélèvements, de mettre en place des études avec ces scientifiques en collaboration avec eux, et de donner accès à ces données aux citoyens et de voir si ces citoyens préfèrent s'en emparer ou pas, et si ça peut changer les choses, faire bouger les lignes.
Voilà, avec des conditions de tournage parfois très difficiles, comme au Maroc, où finalement cette usine d'engrais est un véritable trésor national, c'est un secret d'État quasiment, donc très difficile de pouvoir investiguer à cet endroit, et c'est pourtant le travail que vous êtes parvenu à faire, en faisant un parallèle entre le Maroc et la Bretagne d'ailleurs.
Oui, parce que c'est la saison 2 de Vert de rage, comme vous le disiez, la saison 1, on restait que dans les pays où on allait, on revenait pas forcément en France, et c'est vrai que c'était une petite frustration. Je vous donne un exemple très simple, on s'intéressait au soja paraguayen, dont les épandages de pesticides empoisonnaient la vie des habitants. Et ce soja, nous, on l'utilise en France. Et c'est vrai que c'était dommage de s'arrêter là. Donc on a voulu aussi montrer que dans une économie mondialisée, la pollution est partagée. Et c'était important pour nous d'arriver à faire ce lien, de partir des mines de phosphate au Maroc pour arriver jusque aux engrais phosphatés en France.
Et donc, en quelques mots, qu'est-ce qui se passe du coup avec cette usine ?
Les engrais phosphatés, c'est des engrais qui sont essentiels à l'agriculture française et à l'agriculture mondiale de manière générale, l'agriculture moderne et productiviste. Le phosphore, ça sert à développer la plante. On les sème au moment de, on les épand pardon au moment des semences. Et ces engrais phosphatés, pour la plupart, les trois quarts des réserves viennent du Maroc, qui a les plus grandes réserves mondiales.
Trois quarts
des réserves mondiales de phosphate.
Ouais.
Viennent du Maroc. Et on s'est rendu compte assez vite que il y avait à la fois un problème à l'extraction au niveau donc du Maroc, proche des villes de Safi, dans le sud-ouest du Maroc, où il y a des pollutions aux métaux lourds dans les nappes phréatiques, mais également des problèmes chez nous, sur nos terres. L'INRA a publié il y a quelques années un rapport assez alarmant en disant « Attention, on a trop de cadmium dans nos sols ». Et l'un des principaux suspects, c'était les engrais phosphatés, parce que dans les mines de phosphate, naturellement, vous retrouvez du cadmium, un métal lourd cancérigène. Et les industriels ne le nettoient pas, n'enlèvent pas ce cadmium, et il se retrouve dans les engrais phosphatés, puis dans nos terres, puis dans nos cultures, et puis, au final, dans nos corps à nous.
D'où l'intérêt de mener des analyses scientifiques et donc de les faire financer pour avoir de la vraie science sur justement les effets de ces produits et de ces métaux lourds. Extrait de votre reportage, toujours au Maroc.
je sais pas quel soufre.
Vous voyez là-bas le soufre?
La soufre,
ouais, ouais. La colline jaune là-bas.
La colline jaune, oui.
C'est là où se fait la fertilisation et la combustion du phosphate. Les déchets provenant de ces opérations sont rejetés quotidiennement dans la mer et l'air. Et ces émissions toxiques atteignent les populations qui habitent dans les environs.
Les gens qui vivent autour, là, ils ont quel type de problèmes de santé, quel type de maladies ?
Les maladies les plus répandues dans les zones les plus proches de l'OCP, et même jusque dans la ville, parce que les émissions atteignent la ville, ce sont des maladies liées au système respiratoire, à la fragilité des os, à l'asthme, aux allergies, etc. Mais le lien entre les maladies causées et l'usine exige une confirmation scientifique et matérielle. On a besoin d'études, de prélèvements, d'échantillons pour avoir des preuves en laboratoire.
Voilà, sauf que le temps de la science est long, Martin Boudot, et celui de la télévision beaucoup plus rapide, et vous arrivez quand même à résoudre cette équation.
C'est le vrai défi. Le temps scientifique n'est pas celui du temps journalistique, vous avez tout à fait raison. La chance qu'on a, c'est qu'on a un an à peu près d'enquête et de travail sur un documentaire, et que très vite, en amont, on prend contact avec des scientifiques pour leur dire, voilà, quelle est notre démarche, est-ce que ça vous intéresse, et comment on peut travailler. Et très souvent, on arrive quand même au bout de quelques mois à avoir des premiers résultats. Et puis dans un second temps, alors là c'est pas maintenant, hein, c'est pas en 2021, les scientifiques avec lesquels on travaille vont utiliser nos résultats pour également publier de manière scientifique dans des revues scientifiques, avec peer review, etc. Et se servir de nos résultats dans leurs propres études. Et ça c'est quelque chose auquel je tiens beaucoup, parce que on ne transmet pas uniquement nos analyses, nos résultats d'analyse aux citoyens, mais les scientifiques avec qui on travaille ont également la possibilité de s'en servir pour alimenter la science et l'état de la science. Et donc, c'est un partenariat gagnant-gagnant et pour l'instant, ça fonctionne.
Donc, vous palliez quelque part aussi le manque de moyens de la recherche en France.
Mon rêve ultime, c'est de créer une plateforme un peu kiss-kiss-bang-bang, mais entre la science et les citoyens, où un scientifique ou une équipe de scientifiques dirait « J'ai besoin de tel financement pour enquêter sur telle problématique environnementale ou sanitaire, la disparition des oiseaux, etc., des insectes », et que des citoyens en face disent « Eh ben moi, ça m'intéresse, je vais mettre 10, 15, 20 euros, 30 euros ». Parce qu'effectivement, l'état de la recherche en France est catastrophique. En termes de financement, c'est catastrophique. Et pourtant, vous avez parmi des meilleurs scientifiques au monde sur ces questions-là. Et donc, et c'est pas qu'en France, malheureusement, la recherche, dès qu'elle ne rapporte pas d'argent, malheureusement, elle est souvent laissée de côté. Donc oui, on pallie d'une certaine manière un manque de moyens. Et surtout, on permet à certains scientifiques d'augmenter leur cohorte, d'augmenter leur nombre d'études. Donc ça peut être intéressant.
Beaucoup de témoignages, évidemment, de rencontres dans tous les domaines liés justement à ces engrais et les principaux acteurs aussi, c'est-à-dire vous avez essayé d'aller taper à la porte des industriels de la chimie, vous n'avez pas été vraiment reçu d'ailleurs, hein. Ils n'ont pas répondu à vos messages, mais par contre il y a eu des effets visiblement sur votre demande.
Oui,
interview.
Oui, alors oui, absolument. Donc les engrais phosphatés, tous les industriels des engrais phosphatés sont réunis dans un lobby qui s'appelle l'UNIFA, l'Union nationale des industriels de la fertilisation. Et quand ils ont été au courant de nos trouvailles, au lieu de nous répondre, ils ont préféré envoyer un mail en interne à tous leurs membres, mail auquel on a pu avoir accès.
Eh bien, on va écouter justement le résultat, la réponse, puisque elle est extraite de votre documentaire.
L'UNIFA a pris la décision de ne pas répondre à cette interview. La balance bénéfice-risque est très défavorable. Sur le sujet du cadmium, pour préserver les intérêts du secteur, nous sommes convaincus que la meilleure façon de répondre tant que le sujet reste confidentiel est de construire une réputation positive de notre filière en développant notre communication corporate.
Voilà, soyons avant tout corporate. Hein.
Et c'est d'un rare cynisme, j'ai
mais
vraiment
c'est
très rarement vu
qu'ils écrivent
ça.
En fait,
vous vous rendez compte, ils disent tant que le sujet reste confidentiel. Donc en gros, tant
c'est
que l'opinion
aveu, en
publique
soi,
n'est pas au courant, on ne communique pas. C'est quelque chose d'assez cynique, d'assez rare. Moi, j'ai rarement vu vraiment des réponses d'un lobby.
En général, ils répondent pas, en fait.
Oui, mais ça, en fait, c'était pas pour nous.
C'est en interne.
Nous, on l'a retrouvé. Mais c'est vrai que c'est oui, ça raconte aussi l'état de la filière, qui, je le rappelle, est au courant depuis la fin des années 90, qu'il y a un problème de cadmium dans les engrais phosphatés et qui n'a rien fait. Ouais. C'est un scandale alimentaire et sanitaire et environnemental assez rare, les engrais phosphatés, parce que tout le monde est victime. les personnes qui vivent près des lieux d'extraction, les agriculteurs qui ne savent absolument pas qu'il y a du cadmium dans les organes phosphatés.
Ça n'est pas inscrit d'ailleurs sur les sacs de.
Ce n'est pas noté. Ouais. Nous les agriculteurs, nous les consommateurs, et les seuls qui en tirent profit, ce sont les industriels.
Qu'est-ce qui s'est passé alors? Parce que les choses ont avancé. On voit Julien de Normandie, le ministre de l'Agriculture. Il y a un décret qui est entré en vigueur là cet été, hein, au mois d'août.
Alors oui, il devait passer en mois d'août avec la Covid. Il a été malheureusement reporté au mois de décembre. J'ai eu accès au brouillon de ce texte qui quand même va dans le bon sens, qui indique qu'il va falloir baisser les maximums, les teneurs maximales autorisées de cadmium dans les engrais phosphatés. Donc on va dans le bon sens. Je ne sais pas si vraiment le gouvernement va tenir face à ces groupes d'influence qui sont quand même très puissants, mais on était censé aller dans le bon sens, donc on va rester vigilant par rapport à ça.
Martin Boudot, pour ceux qui n'en auront pas assez avec les engrais, il y a du charbon après. Alors, deuxième partie.
Que de bonnes nouvelles. Voilà, on va passer une bonne soirée dimanche.
Deuxième documentaire donc sur France 5. Ce sera donc 52 minutes plus tard, avec un reportage là aussi assez édifiant que vous avez réalisé entre la Pologne et Strasbourg, parce que bah, évidemment, les fumées venant des usines de charbon, eh bien, nous les respirons tous et il n'y a pas de frontière pour ça. Hein.
Oui, même si la pollution de l'air en France, clairement, elle n'est pas uniquement liée, majoritairement liée au charbon des autres pays, mais c'est vrai que, voilà, là, encore une fois, la pollution n'a pas de frontière. On voulait surtout comparer entre des enfants qui vivent en Pologne et des enfants qui vivent à Strasbourg, leur taux de black carbone. Le black carbone, c'est le carbone suie. Vous savez, c'est cette petite poussière noire quand vous êtes sur votre barbecue, là, et ben c'est ça, le black carbone. Et jusqu'à présent, on était incapable de mesurer ce black carbone dans le corps. Et maintenant, on a un indicateur qui est extraordinaire. Retenez ce nom, black carbone, parce que vous allez en entendre parler dans les prochaines années. Il y a notamment une université avec qui on a travaillé en Belgique qui a réussi à mettre au point une méthode pour repérer ce black carbone dans les urines. Donc, on peut comparer, vous et moi, savoir qui est le plus exposé à la pollution de l'air. Avant, on ne pouvait pas le faire.
Et alors, entre les enfants polonais et strasbourgeois, il y a combien de différence?
425%. 425% de plus de black carbone chez les enfants polonais que chez les enfants français. Ces résultats-là, on les a publiés, on les a donnés aux citoyens qui s'en sont emparés. Ça a fait la une de 43 médias, et notamment en Pologne. On a été aussi auditionné au niveau du Parlement européen pour ces résultats-là. Et puis, le ministre de l'Environnement s'est engagé à sortir du charbon en 2035.
Et on voit le combat des maires, évidemment, qui sont en première ligne. On va écouter l'une d'entre elles en Pologne.
Je vous remercie de me donner la parole. Je voudrais vous montrer des chiffres sur cette capture d'écran. Ce sont les mesures d'air réalisées à l'intérieur de l'école numéro 34 de Rybnik. Et les niveaux de pollution dépassent toutes les normes internationales.
Vous savez, nous ne sommes pas des expertes. Nous n'avons pas de connaissances particulières sur l'écologie ou l'économie. Nous sommes des mères de famille, nous sommes des femmes, et nous vous lançons un appel à l'aide pour affronter ce problème.
Voilà, et cette mobilisation des familles, elle est extrêmement importante aussi hein, dans la lutte, Martin Boudot. Hein.
Absolument, et pour tout vous dire, ce sujet-là, ce documentaire-là, il nous a été soufflé par l'une de ces mères de famille il y a plus de 2 ans, qui nous avait contacté, parce que comme vous le disiez, Vert d'Orage est diffusé dans plusieurs pays dans le monde, dans une quinzaine de pays, et elle nous a contacté en nous disant, mais vous devriez vous intéresser à ce qui se passe ici, mettre en place votre méthode scientifique, parce que nous, on en a besoin, et c'est vrai qu'on a mis du temps à le faire, mais je suis vraiment ravi qu'on l'ait fait, et tant mieux, voilà.
Est-ce que pendant que vous enquêtez ou à la suite de vos enquêtes, d'autant que vous avez quand même des interlocuteurs, là vous dites on a été auditionné au Parlement européen, etc. Est-ce que il vous arrive de recevoir des menaces, des pressions, des intimidations de la part de grands groupes ou même de certains États?
Écoutez, là sur le Maroc, par exemple, sur les engrais phosphatés, ça a été très très compliqué de tourner. Au bout de 3 jours, on a reçu un WhatsApp nous disant que on était recherché par les services de renseignement, donc on a dû repartir en France, en Pologne, alors qu'on tournait près des usines de charbon. On a été arrêté. J'ai passé une petite nuit en garde à vue dans les commissariats polonais que je vous recommande. sur le troisième documentaire dont que vous disiez qui est en ligne, qui est ce qui se passe notamment au Niger, on va à Arlit sur les mines sur les extractions d'uranium. Vous savez que là-bas c'est une zone un peu compliquée avec Al-Qaïda d'un côté, État islamique de l'autre. Tout ça pour vous dire que les sujets environnementaux sont sensibles de manière générale à partir du moment où on enquête dessus. Il ne faut pas oublier que les militants aujourd'hui dans le monde qui sont les plus tués sont les militants environnementaux. 168 il y a 2 ans.
227 l'année dernière.
Voilà, ça augmente chaque année malheureusement.
Martin Boudot, vous avez interrogé le chef du lobby du charbon en Pologne et voilà ce qu'il vous répond. C'est très rapide lorsque vous lui parlez de la dangerosité du charbon.
Cool.
Mais le charbon c'est cool.
Voilà, c'est la conclusion de la discussion pour lui. Hein.
C'était assez surréaliste. Je vais pas vous mentir, je m'attendais pas à ça. C'est vrai que pour la Pologne et pour beaucoup de Polonais, le charbon reste encore l'énergie de la souveraineté contre les Russes. Vous voyez, voilà, ils ont du mal encore à passer à autre chose. Mais il y a eu un engagement du gouvernement polonais de sortir du charbon en 2035. Donc, on va suivre ça avec attention.
Merci beaucoup, Martin Boudot. Donc, engrais maudit en première partie, du charbon dans les poumons en seconde partie. C'est dimanche soir sur France 5 à 20h50 dans le cadre de votre collection Vert de Rage. Merci beaucoup d'être venu nous en parler aujourd'hui à la Terre au Carré. Bon week-end, Mme Cronier.
À lundi.
À lundi.